Au IIIe siècle avant notre ère, Xunzi a sans doute été le penseur le plus original, le plus éclectique et également le plus fécond de toute la Chine pré-impériale. Il a été avec Mencius, Mengzi, l'un des deux principaux héritiers de Confucius et l'un des fondateurs d'une des deux branches principales du confucianisme. L'histoire politique et philosophique de la Chine l'en a fait tardivement un penseur hétérodoxe. En fait, lui-même s'est bien longtemps défini comme étant le seul représentant, l'héritier authentique du maître. Il a d'ailleurs bataillé, ferraillé à de nombreuses reprises contre des adversaires idéologiques, au premier rang desquels Mozi, ainsi que Mencius lui-même, qui représente la face idéaliste, on peut dire moraliste du confucianisme ancien, tandis que lui-même a été présenté comme un théoricien plutôt réaliste, quoique assez rigide, de cette école. Quoique il ait très fortement critiqué l'un et l'autre, il doit beaucoup au premier l'apprentissage de la logique, qui était une science nouvelle pour l'Antiquité chinoise, et au second un approfondissement, un enrichissement de la doctrine confucéenne originelle, en particulier sur ces notions essentielles que sont la nature humaine et la moralité, auxquelles on sait que Mencius a accordé tant d'importance. Le personnage lui-même est tout à fait hors du commun, en ce sens qu'il représente l'un des maîtres penseurs de son temps, quoiqu'il ait été passablement détaché des contingences strictement gestionnaires de l'État. Il a été en tout cas l'un des meilleurs analystes de la vie politique de son temps, cette époque pré-impériale. Faute d'avoir été l'un des ministres de ces principautés à la fin de la période dite des royaumes combattants, il a été surtout le principal responsable de l'académie dite Jixia, qui se tenait dans la capitale de l'état de Qi, au IIIe siècle avant notre ère donc, et qui a formé tant de lettrés éminents jusqu'à la veille de la fondation de l'Empire en 221 avant notre ère. L'œuvre de Xunzi a vraisemblablement été pour partie rédigée par certains de ses disciples, un peu d'ailleurs comme celle de Confucius, mais sa relative unité stylistique laisse percevoir une unité de compilation, en tout cas celle de l'éditeur qui a probablement été Liu Xiang au début de l'époque des Han. Moins sûrement de l'auteur, puisqu'on peut y relever de nombreuses incohérences, voire des contradictions entre les différents raisonnements exposés tout au long de cette œuvre assez considérable, puisqu'elle compte, à ce jour du moins, 32 chapitres. Cette œuvre a obtenu des succès divers tout au long de l'histoire politique et philosophique chinoise. Elle a été tout à fait estimée sous les Han, en particulier au IIe siècle avant notre ère, au temps du règne de l'empereur Qing. Et puis, elle a été en quelque sorte éclipsée sous les Song au XIIe siècle et XIIIe, à la suite de l'émergence du néo-confucianisme de Zhuxi, au profit de celle de Mencius, qui l'a en quelque sorte mis sous le boisseau. Elle a repris de la vigueur et de l'importance sous la dynastie des Qing, les Mandchous, et jusqu'à l'époque de la République, et plus encore d'ailleurs au moment de la révolution communiste, dans la mesure où son aspect autoritaire, matérialiste et très rationaliste plaisait beaucoup à l'époque aux dirigeants politiques chinois. Il doit cette célébrité relative au brio, bien entendu, de ces thèses sur lesquelles je vais revenir, mais également indirectement à celle de ces glorieux étudiants, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément ses disciples, mais qui ont brillé au tout début de l'Empire, donc à la fin du IIIe siècle avant notre ère, tel Mao Zedong, qui a commenté le Shijing, le classique des poèmes, ainsi que Han Feizi, le grand théoricien du légisme, sans compter Li Si, qui était l'éminence grise de l'état de Qin, qui, comme chacun sait, a conquis la Chine et fondé l'Empire. Ladite œuvre se caractérise à la fois par une forme neuve pour son temps et par un style qui est totalement indirect et qui contraste avec les dialogues si chers à Confucius, à Mencius et à bien d'autres penseurs de l'Antiquité. Le cadre de cette compilation de traités correspond à une taille tout à fait appréciable, pour ne pas dire considérable, puisque on y aborde des thèmes extrêmement variés et elle couvre en quelque sorte l'ensemble du spectre des savoirs de cette période. Elle constitue un ensemble d'environ 75 000 caractères, selon les éditions, ce qui est tout à fait considérable pour l'époque où les textes sont généralement beaucoup plus brefs. On peut dire que cet ouvrage se divise sommairement en quatre principales parties. La première, l'étude et la culture de soi. La seconde, l'art du gouvernement par l'homme de bien. La suivante concerne les questions du savoir, de la logique, de la nature du monde et de la nature humaine. Enfin, la dernière est un peu hétéroclite et constituée des questions poétiques de varia historique et également de divers traités philosophiques d'importance secondaire dont on perçoit assez nettement qu'ils n'ont pas trouvé leur place dans les chapitres précédents. On notera en passant que cette forme de traité compilée dans un vaste ensemble évoque celle d'une autre grande compilation, elle d'inspiration taoïste du début de l'Empire, le Huainanzi de Liu Han, qui a été achevé très exactement un siècle après la mort de Xunzi. Disons un mot rapide de ce que fut la vie de Xun Kuang, qui est parfois appelé Xunqing, c'est-à-dire son excellence Xun, mais bien sûr plus connu sous son titre honorifique de Xunzi, c'est-à-dire Maître Xun. Il est né dans l'état central de Zhao, sans doute vers l'an 298, qu'il quitta assez rapidement pour mener des études approfondies dans la principauté voisine de Qi, dans laquelle se trouvait cette célèbre académie Jixia, où il commença probablement à écrire ses premières thèses. Il a ensuite été continué cette éducation auprès de maîtres de l'état de Chu, l'état méridional de la Chine, où il semble qu'il ait rencontré le très éminent poète Qu Yuan, le fondateur de la poésie individuelle chinoise, dont il a beaucoup admiré les élégies, et dont il s'est d'ailleurs inspiré dans son œuvre propre. Et il tira de la situation de cet état méridional de Chu, militairement maltraité par la principauté de Qin, en pleine expansion donc, avant sa conquête de l'Empire, des leçons de gouvernement dont il s'inspira pour rédiger ses divers traités à la fois politiques et sociaux. Il est revenu ensuite dans l'état de Qi, où se trouvait cette fameuse académie Jixia, et où il a occupé des fonctions dirigeantes tout à fait importantes. Il semble qu'il y ait alors subi des influences taoïstes, en tout cas celles évidentes de l'œuvre de Lao Tzu. C'est peut-être d'ailleurs de lui qu'il a pris la relative vénération de la nature et du Tao. Il paraît aussi vraisemblable qu'il subit celle de l'école dite du yin et du yang, qui a été très présente dans cette académie. Il lut aussi les œuvres de Mao Zedong et des ancêtres de l'école légiste, tels Shen Buhai, plus connu sous le nom de maître Shen Zi. Il ne cessa d'ailleurs de critiquer les uns l'un et l'autre pour diverses raisons sur lesquelles nous allons revenir. Mais c'est assurément à ce moment-là de sa vie qu'il commence à construire sa doctrine, qui est faite à la fois d'une fidélité sans faille à Confucius et d'une agressivité constante envers les disciples apostats, si je puis me permettre ce terme, de Confucius et maîtres d'autres écoles de pensée comme celle que l'on vient de nommer, sans oublier d'ailleurs ce qu'on appelle les dialecticiens ou sophistes. C'est alors que se forgea le cœur de sa théorie de la nature humaine, élaborée à la fois contre Mencius et sans doute aussi sous l'influence de ses proto-légistes tels Shang Yang, le prince Shang, et Shen Zi. Le fait qu'il devienne le responsable de cette académie, Jixia, montre l'éminence de son renom et son poids dans le monde intellectuel de son temps. La fin de sa vie est, semble-t-il, occupée par la compilation de certains traités, de certaines thèses, qui vont devenir donc les chapitres de son œuvre, compilés probablement grâce à quelques-uns de ses disciples, et également par des voyages menés çà et là qui l'entraîneront jusqu'à l'état de Qin, où les valeurs confucianistes qui sont les siennes ne seront évidemment pas les bienvenues dans la mesure où cet état était à ce moment-là dirigé par un groupe militaro-légiste qui était loin d'être sensible à son humanisme. C'est peut-être d'ailleurs de cette période dramatique, puisque à ce moment-là, l'état de Qin a attaqué son état natal de Zhao, que lui vint l'idée d'écrire un traité d'art militaire, une sorte d'art de la guerre, dans la douleur des batailles. Il occupa ensuite le seul poste réellement officiel de sa carrière en tant que magistrat de Lanling, dans l'état de Chu. Ce sont surtout, en fait, les fondateurs de l'école légiste dans les années qui ont suivi, qui furent ses véritables disciples, ce qui est tout un paradoxe. Et il est mort en l'an 235, donc quelques courtes années avant la fondation de l'Empire. Shun Zi fut à la fois un penseur original et également un héritier qui se voulait avant tout fidèle à Confucius. C'est en fait là tout le paradoxe de cet homme qui est à la fois continuateur et rénovateur de la doctrine confucéenne. Il est en même temps, je l'ai indiqué, un polémiste confirmé, révolté, parfois violent, guerroyant contre les lettrés qu'il estimait dévoyés par rapport à l'enseignement original de son maître. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'existait pas une école de Confucius à proprement parler, mais plutôt des groupes d'adeptes appelés Zhou, que l'on traduit généralement en sinologie française par lettrés, qui, tout en se rattachant à Confucius, était en fait beaucoup plus influencé par ses héritiers directs, qui étaient des gens comme Zisi ou Zigong, voire Zengzi et Mencius. Donc autant de penseurs à la fois héritiers et en fréquent désaccord les uns avec les autres. Ces hommes étaient probablement assez nombreux, puisque les bibliographes de l'époque Han en ont compté jusqu'à 53, en relevant la totalité des œuvres encore disponibles à ce moment-là de l'Empire. Alors, qu'en est-il de l'œuvre de Xunzi, proprement dite ? Quelles sont les principales orientations doctrinaires de ce grand philosophe ? En quoi poursuit-il l'œuvre de Confucius et en quoi propose-t-il une étape nouvelle? Alors Xunzi est à n'en point douter un humaniste au sens confucéen du terme. Non seulement il ne cesse de se référer à ce concept de gen, c'est-à-dire d'humanité forgé par Confucius, qui est en fait pour l'essentiel un amour et un respect d'autrui, de l'aspiration à se mettre à la place de l'autre, par empathie, si l'on peut dire. Mais il situe surtout l'homme au cœur de son système et le rend maître et pour une large partie responsable de sa place dans le siècle, de l'évolution sociale et plus largement même de la marche du monde. La nature conférée par le ciel est une donnée constante dont nul homme ne peut s'abstraire d'aucune manière. Elle impose, dit-il, ses formes et ses normes à tout un chacun et à tous les étages du monde d'ailleurs, aussi bien au ciel par ses mouvements sidéraux et les saisons, à la terre par la génération des 10 000 êtres vivants, à travers leur cycle de naissance et de mort, et aux humains, troisième et dernier étage, si je puis dire, de l'univers, par les aptitudes dont il est en quelque sorte le dépositaire. Pour Xunzi, l'accord parfait ne dépend que de la volonté humaine qui vise à former un trio harmonieux, ce qu'il appelle une triade, Tsan, dont chaque élément doit répondre aux autres en respectant le principe organisateur des choses, en chinois le Li, que Mencius avait d'ailleurs évoqué avant lui. Cette idée extrêmement importante de nature, Xing, vient de Confucius, mais elle y est traitée chez lui très sommairement, en tout cas dans le Lunyu, dans les entretiens de Confucius. Elle ne sera envisagée au fond comme problème philosophique majeur que par ses héritiers, entre autres Zisi, Gaozi, Mengzi et bien sûr Xunzi. Confucius admet que l'homme a une nature unique, c'est ce qui fait l'unité du genre humain à ses yeux, encore qu'il n'en définisse ni la provenance ni la construction. Mais il proclame qu'elle unit donc le genre humain tout en observant que les coutumes, les pratiques sociales le divisent. Or, dès le IVe siècle, la question de l'orientation de cette nature humaine devient tout à fait importante dans les débats. Pointons seulement pour aller à l'essentiel que Mencius crut devoir affirmer que l'homme est naturellement bon et que Xunzi prit le contre-pied de cette thèse en s'insurgeant contre une telle pétition de principe en affirmant que l'homme est lui foncièrement mauvais. N'oublions pas par ailleurs Gaozi qui se situe chronologiquement entre deux dans cette querelle pour qui l'homme est parfois bon et parfois mauvais ou bien selon qui certains hommes sont bons et certains autres mauvais. Pour Xunzi, en tout cas, dans son célèbre chapitre 23, La nature humaine est mauvaise, ce qui est tout un programme, on en conviendra, il ne fait pas doute que l'homme spontanément est tourné vers son propre profit, au moins sa propre satisfaction, qu'il recherche au détriment d'autrui. y compris si nécessaire, par la violence. Seul à ses yeux, l'éducation, en particulier l'étude dont il souligne l'absolue nécessité en tête de son œuvre, la morale, bien évidemment, c'est un confucianiste, c'est le moins qu'on puisse dire, et surtout les rites sont susceptibles de sortir les hommes de cet égoïsme foncier et de cette hostilité à tout ce qui les entrave dans la satisfaction de leurs désirs comme de leurs besoins. Il y a là une question tout à fait essentielle, puisqu'elle pose deux problèmes philosophiques majeurs, celui du dessein du ciel, qui confère une nature mauvaise aux hommes, en même temps d'ailleurs qu'il génère leur corps et leur âme, et celui de la réparation, si l'on peut dire, de ce mal en lui, par une posture volontariste typique de l'idéologie confucianiste. Pour nous résumer, on peut dire que pour Mencius, l'homme est bon et peut être amélioré, tandis que pour Xunzi, l'homme est foncièrement mauvais et doit être rendu bon par l'apprentissage de la morale des rites et, bien sûr, de la vertu d'humanité jeune. Cette question de la nature humaine n'est en rien académique. Elle engage toute la pensée lettrée vis-à-vis de l'homme, puisque le dessein initial de Confucius et de ses héritiers est, comme on sait, de tendre vers le bien, à la fois le bien propre et le bien d'autrui. Encore faut-il que ce mal foncier supposé ne l'empêche pas d'opérer cette recherche du bien d'autrui et du sien propre. On voit donc clairement que deux visions se sont opposées, sans compter les vues intermédiaires auxquelles je viens de faire allusion, mais que toutes deux débouchent, grâce à une posture optimiste de Confucius, sur la perspective résolument positive du perfectionnement de soi. Pour Xunzi, le ciel n'est ni bon ni mauvais. On voit d'ailleurs, soit dit en passant, qu'il emprunte en quelque sorte cette formule à Lao Tzu à propos du Tao. Mais force est de constater que l'homme qui tente à la satisfaction prioritaire de ses désirs doit avoir recours en quelque sorte à ce qu'il appelle le fabriqué, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, l'acquis, pour tendre vers le bien. Parce qu'il peut y arriver ce qui apparaît comme l'objet d'un choix délibéré, réfléchi, qui s'oppose donc à sa nature propre. Pointons au sujet du désir que Xunzi est le premier à formuler une théorie neuve et profonde du désir humain. Contrairement aux autres penseurs de son temps, il n'estime pas que le contrôle a posteriori de ce désir soit suffisant, mais au contraire, il repère bien que le désir est dû au sentiment du manque et non pas tant au manque réel, objectif d'un bien, comme le croient avant lui bien des penseurs et même certains taoïstes. Il ne suffit pas donc de procurer les biens en question ou de retirer les objets désirés pour abolir l'affect, ce sont les causes qui génèrent la venue et la persistance de cet affect qui font toujours question. On entrevoit ici la marque d'un Lao Tzu partisan de la diminution de la raréfaction des désirs. Si l'on devait d'un mot qualifier la doctrine de Xunzi dans la famille diversifiée, ô combien diversifiée du confucianisme, ce serait sans hésitation aucune du terme de ritualiste. Le plus représentatif et le plus long des chapitres de l'œuvre de Xunzi est en effet dévolu au rite. Puisque l'homme n'est pas nativement bon et que chacun ne va pas de lui-même se diriger comme le font les hommes de bien, vers cette culture de soi que prônent les lettrés, il faut l'y aider, sinon l'y contraindre, par l'entremise des rites. Il écrit au chapitre 6 « Si le destin des hommes est dans le ciel, celui des États est dans les rites. » Il est donc en même temps partisan d'un gouvernement par les rites. Donc on voit bien que socialement et individuellement, rien n'est plus normatif que le rite. Il est l'essence même de la culture, précisément parce qu'il n'est qu'un devoir mis en forme envers autrui. Schunze est le premier à avoir une réflexion aussi subtile, aussi profonde sur le geste rituel. Il affirme que le rite n'a pas, en son temps du moins, un intérêt pratique. Il ne sert pratiquement à rien, ou du moins pas à grand-chose. Sa seule valeur, estime-t-il avec forte raison, est dans le symbole. Le rite est avant tout un marqueur social du respect témoigné à autrui, de l'honneur ou parfois du déshonneur dû à tel personnage ou à tel autre. Il distingue en effet trois niveaux rituels. Le premier s'adresse au ciel et aux esprits. Le second s'adresse aux ancêtres ou aux parents vivants. Et le troisième est dû aux princes ou aux hommes supérieurs. Selon Sunze, le rite a tout à la fois une fonction éducative et une fonction de hiérarchisation sociale. Il reviendra d'ailleurs de nombreuses fois sur cette impérieuse nécessité de la différenciation sociale, fen en chinois, qui est tout à la fois une spécialisation socio-professionnelle et une hiérarchisation des classes. Dans ce génial chapitre 19 de son œuvre, Schunze élabore une théorie complète des rites dont il ne craint pas d'affirmer qu'ils sont nés de la nécessité de répartir des biens limités entre les hommes au désir illimité. Pour ce faire, les sages rois de l'Antiquité ont inventé, pense-t-il, ces différenciations sociales afin de structurer les catégories de la société et de répartir les richesses selon les besoins et le rang de chacun. Mais l'absolue nécessité du rite réside dans sa fonction éducative et politique. Le rite, explique-t-il, nous éduque bien sûr au respect et que nous devons aux autres hommes, mais il nous permet surtout donc de gouverner le monde selon les principes établis, censément reconnus par tous. Parce qu'il est la norme, et mieux encore l'image immédiatement perceptible et compréhensible de la norme, il génère nécessairement l'ordre, qui est le but ultime de tout dirigeant ou de tout conseiller du prince dans toute cour féodale de la Chine ancienne. Il y a toujours chez Schunze ce double objectif du rite, à la fois d'auto-éducation et d'éducation sociale, qu'il tient de Confucius, mais qu'il systématise et surtout qu'il théorise. Le rite, comme disait le maître, ce n'est pas que du jade et de la soie, c'est aussi l'authenticité de l'intention. Avec Schunze, on n'est pas loin de passer de la culture du rite au culte du rite, tant il en attend la fin des désordres sociaux et des troubles personnels, individuels. Schunze est peut-être le penseur qui responsabilise le plus les hommes. Ils sont seuls devant et avec le ciel. Seul car responsable, sans Dieu ou presque. Il n'y a que la nature, identifiée par lui au ciel, qui s'impose à eux. Celle-ci obéit à un principe qui organise les êtres dans le monde, le Li, dont j'ai parlé il y a un instant, une sorte de logos. Et la nature est à la fois la règle qui s'impose à tous et qui doit être dépassée. Donc l'homme doit, dans un premier temps, la prendre pour modèle et former donc cette triade que nous évoquions à l'instant avec le ciel et la terre. Mais les choses sont un peu plus complexes que cela dans sa pensée. L'impressionnant chapitre sur le ciel traite de cette imitation par l'homme de la nature céleste. Si les peuples meurent de faim ou si le désordre règne, il n'a pas malgré tout à s'en prendre au ciel, mais uniquement à l'incompétence ou à la mauvaise volonté des hommes inaptes à gouverner. Donc à gouverner aussi bien autrui et parfois lui-même. Ce chapitre du ciel est peut-être l'un des tout premiers hymnes, non pas à la liberté, ça n'était pas vraiment d'actualité, mais du moins à la responsabilité humaine dans toute l'histoire de la pensée de la Chine ancienne. Xunzi expose en effet sa vision d'un monde dont les esprits sont presque totalement absents, en tout cas inefficaces. Leur présence parmi les hommes ne paraît que symbolique. Donc on est là aux antipodes des thèses de Mozi, si préoccupé par l'omniprésence des dieux. Xunzi, lui, est plus que sceptique. On pourrait dire de lui qu'il est un quasi-libertin, au sens où on l'entendait dans le XVIIe siècle occidental. Pour lui, le ciel, qui s'identifie en même temps qu'il commande à la nature, comme je l'ai dit, ne génère pas d'événements. Et la terre ne produit pas de ressources pour la satisfaction des hommes, mais parce que cela est conforme au principe qui régit la nature même des êtres. Le ciel, écrit-il, n'arrêtera pas l'hiver parce que les hommes détestent avoir froid. La terre ne se rétrécira pas parce que les hommes détestent parcourir de longues distances. Inversement, les hommes qui croient influencer le cours des choses par des prières et des invocations, par des sacrifices, se trompent lourdement à son sens. Si la pluie tombe après une prière, ou si une éclipse s'achève après un sacrifice, ce n'est pas dû au sacrifice, ni à la prière, mais parce que l'un et l'autre devaient de toute façon apparaître, advenir ou disparaître, selon le cours naturel de ces phénomènes qui nous paraissent étranges parce que nous ne les comprenons pas, tout simplement, et non pas parce qu'ils seraient anormaux. Pour ce qui concerne la vie ou la survie des hommes, point n'est donc besoin de s'en remettre au ciel, ni de le louer d'ailleurs quand les événements sont fastes, encore moins de le blâmer quand il tourne au drame. D'ailleurs, Confucius lui-même ne blâmait pas le ciel, il ne s'en prenait qu'à lui-même. On voit là donc ici, dans cette partie de la théorie de Xunzi, le témoignage de l'immanentisme chinois, et plus particulièrement confucianiste. Or, ciel et terre fournissent spontanément ce dont le genre humain a besoin, et il revient aux hommes, bien entendu, de se gouverner avec sagesse pour ne pas créer les pénuries là où elles n'existent pas d'elles-mêmes à l'origine. Ce sont, dit-il, les extravagances humaines qui, elles-mêmes, causent les malheurs des peuples. Ni les esprits, comme le croyait naïvement Mozi, ni le Tao, toujours conforme à la raison des êtres et des choses. Voilà en quoi l'homme est le seul et unique responsable de l'existence qu'il mène, des malheurs comme des bonheurs qu'il rencontre. Notons en passant qu'il y a dans ce raisonnement quelque chose qui, une fois encore, rapproche Xunzi du taoïsme. Le sage est celui qui agit lorsque cela est pertinent et qui sait ne pas agir lorsqu'il n'y a pas nécessité à intervenir contre les mécanismes du ciel qui se suffisent à eux-mêmes pour mettre les choses et les événements en place. Il sait donc ce qu'il ne doit pas faire, ce qui serait aller contre l'ordre des choses de cette raison céleste. L'homme de bien atteint en effet la perfection lorsqu'il a formé ce fameux trio ou triade évoqué plus haut avec le ciel et la terre dans un ensemble harmonieux qui rappelle évidemment beaucoup plus Lao Tzu que Confucius. Il y a chez Xunzi une opposition vive, marquée, entre la nature et la culture. Même s'il accepte que la seconde serve de modèle à la première, il reste persuadé que la grandeur de l'homme, et surtout du sage, est de dépasser ce cadre naturel. Il y a à cela une excellente raison initiale envisagée à l'instant, la nature humaine est mauvaise. On a vu qu'il fallait, pour sortir de cet état, qu'une volonté et une sagesse même supérieure interviennent. Cette sagesse est celle des saints rois, des sages du temps jadis, de la haute antiquité, qui ont généré tous les aspects les plus brillants de la culture, pense-t-il. Les hommes ordinaires n'y auraient pas suffi. Ils ont donc fabriqué, et Xunzi utilise volontairement ce mot, qui désigne d'ordinaire la falsification, particulièrement honnie des taoïstes, des valeurs morales et des pratiques sociales qui permettraient de cultiver, de rendre civil, wen, tous les hommes. La nature du bois, explique-t-il, celle de la glaise, ne permet pas d'en faire a priori des instruments, des ustensiles, des vases. Ce sont les talents des menuisiers, des potiers qui transforment cette matière brute. Le grand génie des rois d'antan qui créèrent ce sens moral et les rituels qui vont avec, dans un processus tout à fait artificiel, permis de transformer à la fois le peuple et les individus en tant que tels, et de l'extraire de cette gangue, si l'on peut dire. Ils enseignèrent la civilité qui s'oppose à la violence guerrière, ils enseignèrent le rite qui s'oppose à l'animalité, et l'amour de l'humanité, gêne, qui s'oppose à la quête de son seul profit pour envisager le bien commun. Toutes ces valeurs civilisatrices ne sont que le fruit d'un artifice imposé, originellement du moins par l'apprentissage des leçons de ces maîtres particulièrement austères. On voit là combien Xunzi tient à la fois du taoïsme par sa foi dans la valeur suprême du Tao comme référence obligée, et s'en distingue, s'en éloigne même par sa volonté farouche de faire triompher l'acquis, qui est aux yeux des taoïstes un aspect de l'horreur, si l'on peut dire. Mais contrairement à eux, Xunzi a fort bien compris que la grandeur de l'homme, c'était précisément d'être distinct sur ces points de la nature pour s'élever à un stade supérieur qui l'amène à exprimer justement par l'artifice le summum de son génie et de son aspiration au bien. Xunzi a exercé tout son talent, ou pour mieux dire son génie, dans bien d'autres domaines que ceux de la philosophie proprement spéculative, la philosophie pure, celle qui envisageait les questions de la nature humaine, de la conduite des affaires gouvernementales, de l'accès à la sagesse, de la recherche du bien, du perfectionnement de soi, de l'étude, etc., si caractéristique de la pensée confucianiste ancienne. Il a eu aussi une ambition en quelque sorte pré-encyclopédique pour son temps, il a envisagé le rôle de la musique. Il a également composé de la poésie savante. Il s'est aussi intéressé à l'art militaire, à l'économie, par exemple, mais aussi à la logique et à la linguistique. Soulignons en passant qu'il a écrit le premier traité de linguistique de l'histoire de la pensée chinoise. Il a en quelque sorte préfiguré les grands ensembles plurithématiques du siècle suivant, dont le Huynens de Liu Han, qui lui doit d'ailleurs beaucoup dans sa forme. La musique, pour en parler rapidement, joue un rôle tout à fait éminent dans le système de Xunzi. Comme chez Confucius, elle est non seulement ce qui élève l'esprit vers le sublime et qui donne une parure, wen, à nos sentiments les plus nobles, mais elle a aussi, voire surtout à ses yeux, une fonction sociale. Elle donne un cadre à l'expression de l'émotion collective et par là même elle canalise les passions qui pourraient apporter le trouble dans les groupes humains, donnant une forme à la douleur comme à la joie. Le même terme, chez lui comme chez bien d'autres penseurs, sert à exprimer l'harmonie des sons, celle des saveurs, tout autant que celle d'une population différenciée en classes sociales parfois antagonistes. Le mystère de l'harmonie sonore dans sa subtilité rejoint d'une certaine façon celle de l'équilibre social, minutieusement recherché par le sage. On trouve en effet chez lui cet instrument pour éduquer au rythme des périodes, à la tension également vers la beauté, à l'exigence morale, enfin. Parce que Xunzi reprend le jugement du maître sur les musiques impures. Tous deux, Confucius et Xunzi, et quelques autres d'ailleurs, dénoncent ces chants et ces sons qui abaissent la moralité du peuple, comme du prince. Certaines principautés, insiste-t-il, ne génèrent-elles pas des musiques qui traduisent leur perdition, leur abandon de tout sens éthique? Comme l'a fort bien dit un penseur chinois contemporain, il y a chez Xunzi une philosophie de la musique, c'est-à-dire une théorie qui accorde une place éminente dans le monde et parmi les hommes à cette expression de la sensibilité. N'oublions pas que dans sa pensée, l'homme ne tend vers l'absolu que lorsqu'il s'approche de la perfection cosmique, dont la musique est évidemment l'une des expressions les plus achevées. Dès lors, les sentiments qui sont présents en lui, tout comme sa morale, trouvent leur plus belle expression, et ainsi que d'autres affects et d'autres choix éthiques qui sont susceptibles de naître à l'écoute de ces harmonies sublimes. C'est pour ça d'ailleurs que Xunzi a si violemment condamné l'austérité de Mozi en matière musicale. On doit par ailleurs à Xunzi un recueil de poésie classique qui constitue aujourd'hui un chapitre important de son œuvre, le chapitre 26, et on a vu que c'est probablement à sa rencontre avec le fondateur de la poésie individuelle, Chuyuan, qu'il doit cette aptitude, ce goût à l'écriture poétique, et en particulier à celle de l'élégie à laquelle il a appliqué certaines, dans laquelle il a voulu transcrire certaines de ses passions politiques, avec d'ailleurs un succès tout à fait relatif. L'homme curieux de tout qu'était Xunzi a encore écrit un traité militaire, un art de la guerre, qui se veut une option humaniste aux arts de la guerre que commirent le célèbre Sunzi et Woods. Mais il est manifeste que l'humanisme confucianiste peine à trouver sa place dans des théories guerrières, l'amour des autres s'accommodant assez mal avec les boucheries communes sous les royaumes combattants. Il est tout d'ailleurs tout à fait clair que Xunzi s'inspire dans ses vues théoriques des présupposés taoïstes de Lao Tzu et de Sun Tzu, pour lesquels une bonne bataille est celle qu'on ne livre pas. Il insiste sur un point tout à fait important de sa conception de la vie politique, à savoir que c'est la relation de confiance entre le prince et le peuple qui dessinent la cohésion nationale, laquelle assure celle des troupes et l'issue des affrontements à venir. La pensée politique de Sun Tzu se complète par plusieurs enquêtes portant sur le renforcement de l'État, sur son enrichissement. On voit que Sun Tzu a cherché à aborder vraiment tous les problèmes philosophiques, politiques qui pouvaient être imaginés à son époque. Il faut, dirais-je en conclusion, à mon sens, voir en Sun Tzu le plus grand maître à penser de l'époque pré-impériale. Il est clairement celui qui a le plus complètement théorisé la pensée confucienne et celui qui lui a donné le plus d'extensions neuves, qui l'a étendue à des domaines jusqu'alors ignorés, voire négligés du maître. Et on songe là à l'art de la guerre, à la pensée économique, à la poésie, aux réflexions sur la logique et la langue. Il fut, à mon sens, un véritable Aristote chinois par la révolution qu'il engagea dans l'incroyable diversité et dans la profondeur de ses investigations, comme dans la subtilité logique de ses argumentations. Son style, qui est souvent assez pesant, se ressent de ses ambitions au raisonnement sophistiqué mais minutieux. Il a repris, sans en exclure toutes les valeurs de la culture de soi de son premier maître Confucius, et son livre s'ouvre comme un symbole sur l'incitation à l'étude, comme le font les entretiens de Confucius, comme une sorte d'hommage à ce dernier. Il écrit « L'étude ne cesse jamais, elle ne prend fin qu'avec la vie ».